Ah.
Ah, pardon.
Bonjour. Bon, bah, on va reprendre nos travaux cet après-midi. Alors, on va commencer avec Agnès de Sarthe et ses deux invités, Mathilde Bouhon et Cécile Duteil, qui vont plancher sur un jeu de mots particulièrement difficile. Alors, bon, vous avez le texte, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Elles vont confronter leurs solutions et vous êtes invités à participer. Ensuite, il y aura Benoît Viraud et Daniel Arsan qui vont venir parler, devinez quoi, de traduction. Et pour finir, il y aura Eric Caravaca qui va faire une lecture d'une nouvelle de Borges, Pierre Ménard, auteur du Quichotte. Et on terminera à peu près nos débats vers 17h30. Voilà, je veux juste rajouter un petit mot de remerciement à la SGDL qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux, qui nous laisse profiter de son jardin, c'était très sympa, et ainsi qu'à nos différents partenaires, et dont particulièrement Flora Belrouillet qui est parmi nous ce soir et qui a beaucoup aidé au fait que cette manifestation puisse voir le jour. Donc voilà, allez, j'insiste pas, je laisse parler les gens intéressants.
Et alors nous, on doit parler dans les petits micros. D'accord, ok. Le gros micro pour les garçons, les petits micros pour les filles. Eh bien, c'est très bien. Tout est normal.
Ah, j'en ai deux, moi.
Oui, alors là, il y en a d'autres aussi. Pardon. Hop, j'arrête. Je me calme. Ouais, bah oui. Mais ça marche? Vous entendez bien? Oui. Ok, d'accord.
Ça résonne un peu.
Ça résonne un peu. Ok, donc je vais. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Je vais présenter ce qu'on va essayer de faire devant vous. Je vais commencer par commenter très brièvement le titre de cet atelier, on va l'appeler comme ça. J'ai appelé ça « À l'impossible, nous sommes tenus ». Et c'était pour moi le résumé de ce qu'est notre métier, le métier qu'on pratique tous les jours. Et ça m'a été confirmé par les dernières phrases, les derniers mots du dernier mail que m'a envoyé Mathilde Tamahé-Bouhon, qui a eu la gentillesse d'accepter ce challenge. Son mail se terminait par « Pourquoi diable ai-je accepté ?» Alors voilà. Donc pourquoi diable traduisons-nous alors que c'est tellement difficile? Et j'ai, en réfléchissant comme ça à ce que nous allions faire, vous n'êtes pas très loin de moi?
Si, je peux me mettre là.
Oui, j'aimerais bien. Moi, je me sens toute seule, je me sens pas bien. Et donc, en réfléchissant autour de cette histoire de traduction, je me disais, c'est drôle parce que l'adjectif traduisible n'existe pas du tout, alors que l'adjectif intraduisible non seulement existe, mais les gens l'utilisent tout le temps, comme pour nous énerver. Ah, ça, c'est un jeu de mots intraduisible. Ah, ça, c'est un sentiment intraduisible. Ah, ça, c'est... Et donc, bon, voilà, contre cette conspiration, contre ce complot, nous nous insurgeons. En compagnie de deux personnes qui ont eu un énorme courage, je dois vous dire que pour ce casting, c'était pas évident. Hein, beaucoup de gens ont refusé, Juliette Binoche. Mais je suis assez contente, finalement, de mes recrues, que je vais vous présenter brièvement. Cécile Duteil. À ma gauche, oui, qui est née en France au milieu des années 60. Alors là, je lis un peu. Pardon ? Marie-Claude, tout va bien ? Ok. Mais elle a très vite quitté son pays, à 3 mois, oui, effectivement, c'est jeune pour voyager, mais avec ses parents quand même, pour aller vivre en Australie, au Maroc, en Pologne, avant de revenir en France à l'âge de l'adolescence. Ensuite, grandes études, longues études, normale supérieure, spécialisation en littérature américaine, plutôt contemporaine, ben, ça tombe bien pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans les années 90, elle entre chez Gallimard, dans le département dirigé par Pierre Marchand, pour travailler à la collection Découverte Gallimard et sur plusieurs collections destinées aux jeunes adultes. Et ensuite vient la traduction et l'intérêt pour la littérature étrangère. Vous avez ajouté, mon père était diplomate.
Ah oui, ça c'était dans le mail.
Oui, mais j'aime bien, version Afrique. Et j'ai vécu de 0 à 13 ans à l'étranger. Je suis sûre que ça compte beaucoup pour mon goût de la littérature étrangère. Moi aussi. Donc c'est pour ça que je voulais le préciser. Et vous ajoutez, j'aime à entendre des langues que je comprends, ou presque mieux que je ne comprends pas. Et je pense que pour certains, ça va être le cas aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des germanistes dans la salle. Tout le monde n'est peut-être pas angliciste, et vous allez devoir écouter des... Oh la vache! Alors ça, on ne m'avait pas prévenu, et je trouve ça un tout petit peu indélicat, mais bon, voilà. On s'est rencontrés, Cécile Dutheil et moi, en fait, on se rencontre pour la première fois aujourd'hui, on s'est rencontrés par un livre interposé. J'ai chroniqué un livre qui s'appelait « Vivre et mentir à Téhéran », un livre que j'ai trouvé très très beau, très intéressant, et que j'ai trouvé tellement bien traduit que j'ai eu envie d'en parler. Et ensuite, dans un retour de mail, Cécile m'a dit qu'on avait en plus deux amies communes, Virginia Woolf et Cynthia Ozick, des super copines. Et donc, je me suis dit que c'était une bonne idée, qu'on aurait peut-être des choses à faire ensemble. Voilà, vous voulez ajouter quelque chose, Cécile,
à cette présentation ? Non, tout ça est très bien présenté. C'est très bien présenté. Ce qui est très juste, c'est qu'effectivement, je pense que le fait d'avoir entendu beaucoup de langues étrangères, et moi, j'ai assisté à des dîners entiers dans des langues où je ne comprenais rien, et je me repérais en entendant les noms propres, en fait. Entre autres, c'était des dîners suédois, je ne vais pas raconter toute ma vie. Puis quand j'étais au Maroc aussi, je n'ai jamais appris le marocain, la langue arabe, donc je pense que j'ai beaucoup entendu. Et en Pologne aussi, même si je n'étais pas scolarisée dans des écoles polonaises, et même si nous avions beaucoup d'amis polonais, mais qui parlaient français, dans les boutiques, comme ça, je connaissais les noms des gâteaux, je connaissais ce genre de noms, mais c'est tout.
Ça s'appelle la survie. Connaître le nom des gâteaux.
À l'époque, c'est plutôt les Polonais qui survivaient, nous, je ne peux pas dire ça.
Merci. Alors, et à ma droite, c'est Mathilde Tamae-Bouhon, qui est née à Paris, qui a une mère japonaise. Qui a d'abord commencé par la musique. Moi, quand je l'ai connue, elle était chef d'orchestre. Elle sortait de l'Institut Sibelius, si je me rappelle bien. Oui. Et donc, j'étais très impressionnée. Et je vous dirai après comment on s'est rencontrés. Et donc, elle a fait sa formation de chef d'orchestre en Finlande et en Allemagne. Et de retour en France, elle fait un master de traduction à Paris 7. Et depuis, elle traduit essentiellement de la littérature grand public et jeunesse pour Flammarion, Hachette, Lumen et De Noël. Elle remarque, après j'ai une petite bibliographie, où elle remarque que tous les ouvrages qu'elle traduit ont un titre très très long. Et alors je ne sais pas si ça a un sens, mais c'est assez joli, j'ai trouvé. « Quand Dieu était un lapin, je reviendrai avec la pluie, gardien des cités perdues. Moi, Simon, 16 ans, homo sapiens. » Enfin, voilà, il y a des tas de choses. Et Mathilde traduit à la fois du japonais et de l'anglais, surtout de l'anglais. Donc on a aussi des japonisants anglistes, enfin voilà. Hein, donc et là vous êtes un peu battu finalement et voilà et Mathilde et moi on s'est rencontrés chez moi qui est un très bon endroit pour se rencontrer parce que c'était il y a 6 ans c'était la première étudiante que j'ai eue je participe au master de traduction de Paris 7 en tant que tutrice et donc chaque année j'accueille chez moi 2 étudiants une fois par mois pendant 3 heures et on fait n'importe quoi comme on va faire aujourd'hui et donc j'accueillais Mathilde qui était un bébé traducteur et qui était un génie et j'étais un peu et elle était tellement rigoureuse, tellement forte qu'après à chaque fois que je traduis maintenant je me dis que ferait Mathilde Bouhon à ma place et donc c'est devenu une sorte de hantise mais une bonne hantise et voilà à quoi ça sert d'enseigner hein, ça sert à avoir des étudiants qui vous apprennent votre métier. Quelque chose à ajouter, Mathilde ?
Je n'ai pas du tout la même version, mais...
C'était pas chez moi ?
Si. Ah, si. Non, moi, c'est vrai que le grand souvenir, c'est quand même, je suis arrivée à votre porte et tout de suite, vous m'avez ouvert, vous m'avez dit, venez, dans la cuisine, on va faire du thé. Et alors là, je me suis dit, c'est bon, je vais me sentir très bien ici. En plus, après, on s'est installé dans le salon, il y avait un piano, il y a un chat qui est venu s'installer sur mes genoux, donc là, c'était parfait.
C'est une pub pour le master de traduction de Paris 7, en fait, on en profite, voilà. Alors, on en vient au vif du sujet. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, regardé le texte en amont. Si vous ne l'avez pas regardé, vous l'avez entre les mains et vous l'avez derrière nous. Ce texte, il est extrait d'un roman de Alan Gurganus et non pas Gugarnus, comme c'est écrit là. C'était pour voir si vous suiviez. Visiblement, vous ne suivez pas. Donc, Alan Gurganus, qui est un écrivain qui est né en 1947 en Caroline du Nord et qui a écrit, je crois, environ 5 ou 6 romans. Et ce roman dont on a tiré le texte s'appelle Oldest Living Confederate Widow Tells All. Il est paru en 1989 et si on voulait traduire ce titre, ce que je ne souhaite à personne, ça donnerait quelque chose du genre, et elle a dans le genre titre long, pardon Mathilde, mais bon, la plus âgée des veuves de soldats confédérés encore vivantes crache le morceau. S'il y a un éditeur dans la salle et qui refuse, je comprends, hein, je le prends pas mal. Donc c'est un roman sur la guerre de sécession. Et la narratrice qui prend en charge toute la narration durant ce roman qui fait plus de 900 pages, je ne sais plus, il est très très long.
700, ouais.
Donc c'est Lucie. Lucie qui, au moment des faits, a 99 ans. On est en 1984 et elle raconte toute sa vie et entre autres son mariage. À 15 ans, elle a été mariée avec le capitaine Marsden qui était un ancien soldat confédéré, donc avait fait la guerre de sécession. Donc à travers les yeux de Lucie, on revoit, on revisite toute la guerre de sécession. Le passage que je vous propose, que je nous propose aujourd'hui, il est situé à la fin du premier tiers du roman. Et dans ce passage, Lucie, qui a beaucoup d'enfants, je ne sais plus combien ils en ont, 9, un certain nombre, pendant tout le roman, elle est très habitée par la crainte qu'il arrive quelque chose à ses enfants. D'ailleurs, elle n'a pas tort, pour ceux qui liront le roman. Et dans ce passage-là, elle essaye presque de les protéger mentalement en invoquant un poème, une chanson. C'est comme si c'était une chanson qu'elle se chantait à elle-même pour mettre ses enfants hors de danger. Donc voilà le contexte du passage. Le poème, vous voyez qu'il y a un poème au milieu, c'est un poème de Robert Louis Stevenson, qui est un écrivain et poète né en Écosse et qui est né en 1850, c'est-à-dire la même année que le capitaine Marsden, le fameux confédéré terrorisant. Donc ça, c'était un hasard rigolo, et qui est auteur entre autres de L'île au trésor, de Dr Jekyll et Mr Hyde et du Maître de Ballantrae. Le poème, il est tiré de A Garden of Verses, qui est un recueil de poèmes pour enfants. Ce qu'on voit, enfin pour ceux qui l'ont lu, vous voyez que c'est effectivement un poème assez simple qui s'adresse à des enfants dans une situation enfantine. Alors, la première chose que je voudrais commencer d'abord par demander à mes camarades ce qu'elles ont éprouvé en lisant ce texte. Et ensuite, j'aimerais, si ça se passe bien, si vous en êtes d'accord, qu'on aborde les enjeux et les difficultés de traduction de ce passage qui sont assez multiples. Ça va un peu dans tous les sens. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir, à vous manifester si vous trouvez qu'on a fait une erreur ou si vous trouvez qu'on peut améliorer une chose qu'on a dit ou la préciser. C'est un atelier participatif, je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin voilà, vous êtes les bienvenus pour intervenir. Donc ma première question à vous, mes chers amis, c'est comment vous avez reçu ce texte ?
Moi, excuse-moi Mathilde, je réponds aussi. J'ai été intriguée dès le début parce que j'avoue que je ne connaissais pas l'auteur, j'avais entendu son nom, mais très 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 loin. Donc ma première réaction, c'était j'espère qu'il n'y a pas de libraire, de commander le livre sur Amazon. Je l'ai reçu. Mais c'est un livre anglais. Non, mais il est traduit en français, mais je ne me suis pas occupée de la traduction française. J'ai donc acheté reçu. Et je ne l'ai pas lu entièrement, parce que c'est 700 pages. Et malheureusement, je n'ai plus le temps de lire, de me plonger 8 heures par jour dans des romans, comme je l'ai fait à une époque. Mais en revanche, depuis que je l'ai reçu, c'est-à-dire il y a une dizaine de jours, j'en lis quelques pages tous les soirs avant de m'endormir. J'ai tout de suite vu que c'était un livre de haute voltige littéraire, extrêmement virtuose. Et ce qui m'a fascinée, je dois dire, c'est que, ce que je vous disais là, avant la rencontre, c'est que Lucie, donc, le personnage qui parle en 84, a 99 ans, donc elle est ma contemporaine, plus âgée que moi, mais moi en 84, j'étais évidemment née. Elle a connu en fait, la guerre de sécession parce qu'elle était mariée avec cet homme beaucoup plus âgé qui était capitaine pendant la guerre de sécession. Et ça me fascine, cette façon de télescoper les époques. Ça veut dire que moi, en fait, en lectrice en 2015, je connais quelqu'un qui, nanana, a connu la guerre de sécession et c'est pas si loin que ça. Et d'ailleurs, c'est un peu anecdotique, mais il y a 6 mois, j'avais un ami américain au téléphone et à propos de quelque chose qui n'a rien à voir et qui est personnel, il me disait, mais tu sais, aujourd'hui aux États-Unis, il y a encore des gens qui raisonnent en termes de guerre de sécession, qui sont du Sud et qui ont des réflexes et disent, mais moi, dans ma famille, on a connu la guerre de sécession, donc on pensait ça. Donc, je trouve ça assez fascinant. Donc ça, ce n'est pas du tout linguistique ce que je vous dis. Et en fait, je me suis collée quoi, au texte, mais seulement hier matin, et je me suis laissée quand même une nuit, parce que je pense que la nuit porte conseil, ce qui n'est pas toujours vrai, mais je me suis dit, ça va un peu décanter. Mmh. Et ce matin, je ne l'ai pas noté, je n'ai pas réimprimé mon texte, mais j'ai eu une autre idée pour, vous allez voir, il y a un trick, une petite chose un peu perverse dans cette traduction. Il faut trouver un équivalent traduisible, n'est-ce pas, entre counterpane, écrit A-N-E ou A-I-N, J'ai eu une autre idée, mais j'en ferai part, voilà, quand on sera plus dans le détail du texte. Donc voilà, moi c'était au début c'était la curiosité, qui est cet auteur, qui est ce roman, et je me suis dit oula, sacré.
Mathilde.
Moi j'ai eu à peu près la même réaction en fait, hein, qui était pareil. Moi je connaissais pas du tout non plus l'auteur, donc une réaction de curiosité vis-à-vis de ce texte qui avait l'air quand même effectivement assez d'avoir du caractère, quoi. Mais alors moi j'ai pas pris le temps du tout de regarder, d'aller voir le roman. Enfin je voulais l'acheter et y jeter un œil, et puis bon finalement j'ai. Et voilà. Et après, la deuxième réaction a été de me coller directement sur le texte, bon, un petit peu plus tôt en début de semaine. Mais voilà. Et puis, de simplement d'y aller, de me laisser porter par le texte et de voir si ça passait ou ça cassait et comment on pouvait arranger ça. Voilà.
Alors moi, c'est un texte que je connais depuis des années et sur lequel je travaille beaucoup avec les étudiants que je reçois chez moi dans la cuisine en buvant du thé, parce que il y a vraiment quelque chose de compliqué que je vais un peu détailler pour que vous puissiez suivre plus agréablement, et que je me dis que pour des gens qui commencent dans la traduction, commencer par faire quelque chose d'impossible et y parvenir, après ils sont tranquilles, quel que soit le texte qu'ils rencontreront, ils diront bon, j'ai déjà fait ça, c'était, voilà, je vais m'en sortir. Donc c'est pour ça que je leur colle ça dès le début de l'année. Et ce qui est assez joli, c'est que la plupart du temps, quand je parle de ce texte ou quand je le montre à des gens, ils me disent c'est impossible. Et en fait, chaque année, je reçois des versions différentes de jeunes gens qui ont trouvé une solution. Alors, il y en a des plus ou moins réussis, mais il y a quelque chose qui sort. Et donc, j'envisage de faire un musée de la traduction de l'impossible avec ce seul texte. Donc là, la grande difficulté, mais il y en a d'autres, la principale difficulté, elle tient au fait que dans ce poème qui s'appelle The Land of Counterpane, le pays de la courte pointe, on entend, en anglais, on peut entendre counterpane, ça veut dire courte pointe, mais la narratrice entend counter-pain, c'est-à-dire contre la douleur. La difficulté, c'est pas juste ça, c'est aussi que par la suite, dans le texte, dans la narration, elle explique que quand elle a 5 ans, elle entend ce poème et elle entend, au lieu d'entendre counterpain, elle entend counterpain, et que toute sa vie, ce lapsus auditif demeure, et qu'elle reste avec cette idée, et que elle, quand elle élève ses enfants, elle les élève dans l'idée qu'il va y avoir que ce pays existe, et qu'il y a cette contrée dans laquelle elle voudrait que ses enfants grandissent. La difficulté pour le traducteur français, c'est d'arriver à trouver un jeu de mots qui puisse aller qui puisse s'insérer dans le poème et qui puisse ensuite rebondir à l'intérieur de la narration. Bien sûr, il faut que ça ait l'air absolument naturel, c'est-à-dire il faut pas que ce soit tiré par les cheveux, il faut que ce soit qu'on y croit. Donc voilà, ça c'est la première embûche. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, y compris pour les gens qui ne sont pas anglicistes, s'il y en a? C'est clair? Ok, très bien. Un enjeu plus général et sur lequel j'aimerais avoir votre avis, c'est, et qui est moins une difficulté spécifique, vraiment l'os sur lequel on tombe, c'est que c'est de la poésie. Donc il y a tout simplement déjà la question de qu'est-ce qu'on fait quand on traduit de la poésie. Alors il y a parmi vous dans la salle des tas de gens qui ont traduit de la poésie, j'imagine déjà, et qui se sont posé des questions, mais je voudrais déjà voir avec mes camarades comment vous abordez ça, c'est-à-dire vous voyez un poème rythmé, rimé, qu'est-ce que vous faites?
Je traduis, j'y vais, mais j'ai quand même plusieurs petits mais. Je dois avouer qu'il y a un petit chose un peu, je peux dire ça, intimidant. Je ne sais pas, il y a quelque chose de plus intimidant dans la poésie, parce que la poésie est un genre, je ne sais pas, qui a un statut un peu différent. Enfin, voilà, c'est vrai. Donc c'est un peu intimidant. Après, il y a dans les poèmes rimés, dans les poèmes qui ont beaucoup de figures rhétoriques, il y a cette contrainte. Mais ça, en fait, je trouve ça assez amusant. Voilà, non,
ma question, en fait, c'est plus précisément, est-ce que méthodologiquement, quand vous êtes face à un poème qui est rythmé et rimé, vous vous dites, je vais le traduire rythmé et rimé.
Oui, mais je n'ai pas de méthode différente.
Non, mais c'est votre...
Ouais.
Mais
et d'ailleurs, là, ce que j'ai fait, je ne dis pas que c'est parfait, mais ça m'amusait et j'ai cherché à le rimer.
Oui, Mathilde.
Pareil. Okay. Ouais.
Alors, c'est pas, je pose cette question parce que ce n'est pas une évidence. Il y a des, il y a, en traduction, vous le savez, il y a 1000 écoles. Hein, chacun a sa propre école, en fait. Et donc, il y a des personnes qui vont vous dire, quand on traduit en rimant, on déforme le sens du texte, on s'éloigne du texte. Et donc, il vaut mieux garder l'esprit, il faut mieux garder le sens et s'attacher aux mots, peut-être faire des rimes intérieures, etc. Alors, moi, j'ai amené un petit texte de Marina Tsvetaeva pour répondre à ma place, parce que c'est une poétesse immense et qui était russe, mais qui parlait parfaitement français et qui traduisait dans les deux sens, du français vers le russe, du russe vers le français. Et à un moment, quand elle habite en France, elle essaye de faire publier des poèmes de Pushkin et elle écrit à plusieurs personnes. Et elle écrit des lettres à André Gide qui comprend absolument rien à ce qu'elle lui raconte. Mais là, c'est une lettre qu'elle écrit à Charles Vildrac, qui était l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le vers librisme ». Elle lui écrit pour lui dire qu'elle veut traduire en vers pas libre du tout. Alors ça, c'est tout à fait typique de Marina Tsvetaeva, c'est-à-dire qu'elle prend l'interlocuteur le plus antagoniste et elle y va, elle fonce, elle est dingue de toute façon. Et donc, elle lui écrit « Cher monsieur, j'ai bien reçu votre lettre et votre livre, donc le vers librisme. Vous me demandez pourquoi je rime. » Elle cite « Je suis chrétien, j'ai un petit chien qui mange du pain tous les matins. » Entre parenthèses, Jaco, fils de l'épicier d'en bas, 6 ans. Si le dit auteur de ce quatrain avait dit « Je suis baptisé, j'ai un petit chien auquel je donne à manger tous les jours », ça ne me dirait rien, ni à lui non plus, ni à personne, ça ne serait rien. Et voici que cela est. Voici, monsieur, pourquoi je rime. Et dans une lettre suivante, elle écrit « Mon Jaco ne connaît pas de cantique puisque ses parents sont païens et qu'il va à la communale. C'est la rime, nécessité de rimer à chien, qu'il a chrétiennisé. On commence par dire et on finit par faire ou être. » Voilà, donc ça, c'était le petit éclairage de Marina Tsvetaeva et ça reprend un peu ce que vous disiez, Cécile, sur le fait
en
que...
beaucoup mieux. Non,
on ne va pas commencer, hein, de toute façon. Mais bon, c'était une façon d'éclairer ce que c'est que la contrainte. Moi, j'aime bien qu'elle dise qu'il est devenu chrétien parce qu'il avait un chien. C'est quand même génial. C'est une conversion par l'animal. Moi, c'était un truc que je n'avais jamais connu. Mais c'est ça, finalement, cette contrainte de devoir rimer, de devoir faire des vers, elle est une contrainte très productive. C'est-à-dire que c'est une contrainte qui fabrique des choses.
Oui, bien sûr. C'est drôle, non, c'est génial, le petit passage de Marina Tsvetaeva. Non, mais je tombe des nues, je suis très admirative, je me sens complètement idiote à côté. Oui, bien sûr que la contrainte, enfin, je sais pas, il y a même une citation de Gide qui dit, non, c'est ça, très connu, l'art naît de la contrainte. Enfin,
oui.
Et puis, en même temps, je trouve que les vers là, de Marina Tsvetaeva montrent quelque chose qui est commun avec les nursery rhymes. C'est quelque chose de léger aussi. Moi, je disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose d'intimidant et au fond, c'est un peu idiot. Parce qu'il y a aussi dans la poésie, et les Anglais le savent mieux que tout autre, quelque chose de léger, extrêmement simple. Et le poème de Stevenson qui est là, il est d'une simplicité enfantine. Hein. Mais simplement, il est difficile à traduire parce qu'il faut trouver des équivalents et que l'anglais est cette langue qui contracte beaucoup, comme l'allemand, je crois, que je ne connais malheureusement pas. Mais en fait, il est simple, comme un enfant, comme une comptine d'enfant, comme un enfant qu'on va coucher au lit.
Mais ça fait partie d'ailleurs, un des enjeux de la traduction de ce poème pour moi, c'est d'arriver à respecter son intégrité. C'est-à-dire que c'est un poème pour enfants. Il faut qu'en français, il soit aussi un poème pour enfants, avec un univers d'enfants et des mots qui peuvent s'adresser à un enfant. Ça, c'était pour moi une des contraintes aussi. Vous avez pris en compte aussi le fait que c'était un poème pour enfants, j'imagine.
Oui.
Et voilà où on en est quand on est face à ce poème. Donc on a toutes les trois fait le même choix, mais je crois que vous avez trouvé une traduction.
Oui, mais malheureusement, alors je croyais l'avoir, mais je l'ai pas. J'ai regardé.
Mais vous pouvez en parler.
Oui, je peux en parler. Je me suis dit, tiens, je vais regarder si ce poème est traduit. Bon, parce qu'aujourd'hui, on a malheureusement ou heureusement Internet. Donc j'ai cliqué et je suis tombée sur un petit recueil du Point Seuil. De poèmes de jardin d'enfants, la traduit par Nogret, en plus quelqu'un que j'ai connu, qui était professeur. Et j'étais étonnée, enfin pourquoi pas, parce que il s'est extrait de la contrainte de la rime, il n'y a pas de rime. Là, nous avons quatre strophes de quatre vers, et lui, en fait, il a fait quatre strophes de vers, libres et liés, c'est-à-dire qu'il ne va pas à la ligne. Et puis, il était quand même très loin. Très loin, enfin j'ai trouvé très loin du texte, en même temps assez amusant. Je sais que par exemple, Up and Down, à un moment, il mettait une, deux. Alors, je sais pourquoi il a mis une, deux, c'est parce qu'il parle de petits soldats de plomb. Il est dans son lit, il parle de petits soldats de plomb, mais il n'y a pas du tout une, deux dans le texte. J'étais un peu étonnée, mais pourquoi pas, je ne suis pas scandalisée non plus. Et je me suis dit, c'est drôle, lui, manifestement, il a effacé, évacué la rime. Et c'est important, la rime. Mais même si elle ne veut rien dire, surtout dans la langue anglaise, dans quelque chose qui est enfantin.
Ben nous, visiblement, on trouve ça important, mais encore une fois, c'est très... lui, il a sûrement une raison, c'est dommage qu'il ne soit pas là, mais il pourrait sûrement défendre ce choix. Alors, il pourrait moins le défendre dans le cadre de ce qu'on fait aujourd'hui, parce que s'il choisit de traduire « Two Garden of Verses », pourquoi pas, c'est son parti pris, il va faire absolument du vers libre, et il va trouver autre chose, il va trouver une espèce d'invention, être plus sur le conte, sur l'image, il va penser peut-être que l'imagination ou l'imaginaire du lecteur va être plus sollicité, etc. Nous, on est contraints, il me semble, d'utiliser la rime et la rythmique, parce que Lucie, elle en parle même comme d'une chanson, je crois,
elle dit elle appelle ça ditty, c'est une petite comptine.
Une comptine. Donc, si vous écrivez dans le texte « je pense à cette comptine » et qu'ensuite vous mettez du vers libre, le lecteur s'y perd. Donc déjà, nous, en tant que traducteurs, on a cette information que nous donne le texte, la narration. Il faut que ça rime, il faut que ça chante. Donc voilà, nous, on n'avait pas le choix. Mais je voulais quand même aborder cette question du choix. Est-ce qu'on peut ou pas rimer, ne pas rimer, etc. Ensuite, je voulais savoir... avoir votre sentiment sur qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un jeu de mots. Parce que c'est aussi une question, c'est-à-dire comment on résout ce genre d'énigme. Et c'est pas seulement... Bon, là, c'est un exemple, il est particulièrement difficile, mais enfin, on a tous rencontré des jeux de mots. Et je me souviens qu'une fois, il y avait un lecteur qui avait été outré qu'on adapte les jeux de mots et qui m'avait dit, non, il faut mettre une note avec marqué « jeu de mots intraduisible ». Bon, moi, j'avais trouvé que ce n'était pas une façon très élégante de faire son boulot. Mais enfin, voilà, pour vous dire à quel point les gens ont des avis sur tout, et pourquoi pas. Donc, je voulais savoir si vous pouviez décrire comment chacune vous avez procédé. Alors, d'abord, est-ce que vous avez réussi? Je commence par la fin. Réussi. Est-ce que vous avez fait un jeu de mots? Est-ce que vous avez mis une note de bas de page?
Non.
D'accord. Non, parce que
j'ai pas mis une note de bas de page. Non, sinon on ne participait pas. Ça faisait partie du jeu quand même d'essayer de s'approcher.
Vous avez commencé ce matin alors.
Non, hier matin. Hier matin. Je voulais que la nuit me porte conseil.
C'est bien. Ah, mais ça, c'est une méthode.
Oui.
C'est très méthodologique la nuit pour un traducteur.
Oui. Non, volontairement, j'ai laissé une nuit.
Donc, il y a jeu de mots, chez l'une comme chez l'autre. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez raconter comment on s'y prend quand on traduit un jeu de mots?
Je laisse la parole à Mathilde.
Mathilde.
Alors, moi, déjà, je suis complètement contre la note, disons, jeu de mots intraduisible, parce que ça fait partie des petites choses qui m'ont toujours agacée en tant que lectrice, déjà, même assez jeune. C'était cette façon d'avoir le texte qui vous nargue en disant, non, tu l'auras pas en français. Donc, voilà. Donc, après, évidemment, moi, mon approche, c'est toujours d'essayer de trouver... idéalement un équivalent proche. Après, est-ce que c'est possible ou pas, ça dépend. J'ai eu récemment sur une traduction que j'ai rendue il y a quelques mois, pas mal de jeux de mots avec des sous-entendus sexuels qu'il fallait parfois soit réadapter ou alors distribuer ailleurs dans le texte, ou alors j'ai carrément eu un moment où il a fallu que j'explique le jeu de mots à mon éditrice qui n'avait pas compris. Donc ça fait partie des aléas. Moi, c'est vrai que c'est mon côté peut-être un peu kamikaze, quoi, de me dire, non, j'y vais et j'essaye de trouver une solution.
Alors, comment on fait quand on essaye?
C'est-à-dire
Parce que, par exemple, je trouve que... Enfin, moi, c'est mon impression. Quand on traduit, il y a des problèmes qui sont résolus par certains biais et d'autres pour lesquels ça ne marche pas. Par exemple, moi, il m'arrive dans des textes de ne rien comprendre, des textes assez compliqués, et je le fais en latin. Je fais de l'analyse logique, je fais les propositions, je reviens aux fondamentaux, et puis une fois que j'ai fait du latin, je comprends. Bon, c'est rare, hein, mais ça peut arriver dans des textes vraiment, vraiment, vraiment techniques. Techniques au sens linguistiquement très, très élaboré. Moi, j'ai remarqué, mais je ne sais pas si c'est votre sentiment, quand je regarde un jeu de mots, c'est comme un tour de magie, je fais « Oh !» Mais il n'y a rien derrière. Donc, quand je vous dis la question, c'est une question méthodologique pour moi, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien commencer par quelque part. Alors, est-ce que vous pourriez, mais en vous souvenant de ce que vous avez fait pour ce jeu de mots en particulier. Comment vous vous y êtes pris ?
Moi, je suis partie de la sonorité. C'est souvent mon approche avec les jeux de mots. Après, je ne sais pas, est-ce que ça vient aussi de, tout simplement de ma formation musicale. Moi, j'ai grandi avec l'opéra, donc, et je suis une grande spécialiste du lapsus auditif quand il s'agit de la musique, que ce soit les livrets d'opéra ou les textes de chansons de rock ou de pop. J'entends très souvent à côté. Parfois, c'est plus intéressant, parfois, c'est n'importe quoi. Et donc, là, en fait, c'était... moi, j'ai suivi cette logique-là pour ce jeu de mots. Je me suis dit, ben, moi, si avec mon oreille, de guingois, qu'est-ce que j'aurais entendu dans ce texte ? Voilà. Donc j'ai adapté ma propre logique.
Et alors à ce moment-là, comment vous avez procédé ? Vous le relisiez ? Vous le chantiez dans votre tête ?
J'ai essayé de le lire un peu à voix haute pour voir qu'est-ce que je pouvais trouver comme sonorité approchant.
Alors je voulais dire aussi en passant qu'une des libertés qu'on peut prendre... malgré toutes ces contraintes, c'est que bien sûr, on n'est pas obligé de faire porter le jeu de mots là où il porte réellement dans le texte. C'est-à-dire, c'est pas forcément dans le titre. On va pas forcément le faire coller sur le mot courte pointe. On peut faire descendre le jeu de mots dans un autre vers, dans une autre strophe. L'important, c'est qu'il y en ait un et que ce soit de l'ordre du lapsus auditif. Alors déjà, il y a l'identification du jeu de mots qui est assez importante, je pense, méthodologiquement, c'est-à-dire se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a créé le jeu de mots. Et Cécile, alors vous, c'était comment ? À part la nuit, mais qui est une très bonne méthode.
Je suis loin d'être aussi musicienne que Mathilde, mais je me laisse aller. C'est très musical aussi. C'est très, en fait, c'est vraiment sensitif, quoi. Mais après, je reviens dessus. Et là, en fait, j'ai pas du tout la dernière solution parce que j'ai noté là pendant que vous étiez en train de dire, on peut faire glisser le jeu de mots. Que ce matin, j'étais en train de faire autre chose. Et j'ai noté trois trucs. Ah, là, je tiens quelque chose.
Ouais, une piste nouvelle.
Ouais, je tiens une piste nouvelle parce que tout d'un coup, j'ai entendu trois homonymies entre les mots plaine, plaide et peine. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire ça. Parce qu'en plus, dans plaine, il y a laine. Et comme il s'agit de draps, de couverture, et que le counterpane, c'est donc un peu une forme de couverture. Et dans plaine et peine, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, il y a le mot plaine dans le. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais tout d'un coup, je me suis dit, tiens. Là, on peut peut-être trouver un truc, parce que c'est pas mal, plaine et peine, c'est quand même très, très proche. Sinon, je suis moins choquée par les notes jeux de mots intraduisibles. D'abord, il n'y en a pas tant que ça, et je trouve qu'il y a... Moi, j'aime bien, en fait, quand il y a des mots étrangers dans une traduction, qui parce que c'est une note de musique pour moi. Comme on ne comprend pas le sens, c'est comme une note de musique. Je suis pas choquée.
Par exemple, comment on aurait procédé si on s'était dit, pourquoi pas, je vais rester dans l'anglais et je vais proposer le jeu de mots en anglais et le mettre en... Vous auriez mis tout le poème en anglais, proposé tout le poème en anglais, ou vous l'auriez proposé en français en mettant une note en disant... Parce qu'après, ce qu'il y a de compliqué, c'est que le paragraphe qui suit, qui est là derrière nous, comment on intègre c'est-à-dire que quand Lucie, elle dit, je pensais que mes enfants allaient...
Voilà. Oui, non, là c'est particulier là, parce qu'il y a la difficulté dans le poème et ensuite elle le reprend et puis à partir de ce jeu de mots, elle donne du sens et elle dit qu'en fait elle a voulu protéger ses enfants, élever ses enfants dans un monde idéal, counterpain, contre la peine, sans une sorte de monde anti-douleur. Donc là c'est un cas particulier, d'accord. Mais c'est pas toujours. Bien sûr, elle brode à partir de ça et elle donne du sens. Enfin, c'est toute une éducation derrière.
Pour moi, c'est ça la grande difficulté, oui, c'est d'arriver à trouver quelque chose dans le poème qui puisse ensuite irriguer la narration sans que ce soit, sans qu'on ait aucun effort à faire, sans que le lecteur soit obligé de se dire mais de quoi on parle là, comment ça se fait, quel rapport avec le poème, etc. Moi, je sais que j'avais procédé. Mais ça n'a pas marché, mais je le dis quand même parce que après tout la méthode c'est aussi les choses qui marchent pas. Je m'étais dit je vais faire des listes de mots, donc j'avais fait couverture, courte pointe, édredon. À un moment j'avais pensé, par exemple, c'est pour vous dire comment on espère que ça va marcher et que ça marche pas, par exemple édredon, j'avais fait comme vous faites, moi c'était les chansons de Brassens hein, plutôt, avec lesquelles quand je les rechante aujourd'hui je me dis qu'est-ce que je comprenais.
Oui, moi aussi, je pense à Brassens.
Ah ben, c'est génial pour ça. Parce que tous les enjambements, par exemple, je ne les comprenais pas. Donc, je mettais des demi-mots. Enfin, je ne sais pas très bien ce que je fabriquais avec ça. Mais enfin, c'était de la bouillie. Et donc, j'ai essayé de me remettre dans cet état-là. Et je pensais, je faisais venir les mots du texte, c'est-à-dire j'utilisais tout le paradigme du lit, je faisais coussin, oreiller, après je faisais couverture, plaid, édredon, couette, etc. Et je me souviens qu'à un moment sur édredon, je m'étais dit tiens, édredon c'est un mot tellement bizarre, et je me disais est-ce qu'on pourrait pas avoir êtredon? Être don, alors après j'avais essayé, et là ça fait le truc exactement tiré par les cheveux, où après vous avez Lucie qui dit « Et avec mes enfants, je voulais être dans l'être don », et là on se dit « Mais c'est quoi, c'est un séminaire de Lacan ?» Enfin bon, et ça marche pas du tout. Mais c'est aussi en faisant, moi j'ai l'impression que c'est aussi en se perdant dans ces zones un peu marécageuses qu'on peut attraper quelque chose.
Oui. Non, mais je comprends très bien. Moi, c'est drôle parce qu'en fait, au début, je ne sais pas pourquoi. Hein, c'est un peu lacanien. D'ailleurs, c'est ce qui m'est venu. Il y avait j'ai mis courte pointe, en sachant que j'aurais pu mettre couvre-lit, bon, plein d'autres choses. Et puis, d'un coup, j'ai pensé à courte pinte, mais orthographié avec un i. Puis après, je me dis, ça fait quand même un peu soudard, la pinte et tout, c'est quand même pas terrible. J'ai vérifié l'étymologie du mot pinte dans le dictionnaire pour savoir d'où ça venait. Je me dis, ça fait quand même un peu bon. Et après, et c'est ce que j'ai imprimé, là, donc l'avant-dernière version, courte pinte avec un e. Il me dit courte pointe, courte, comme si c'était peint. Et donc, j'ai mis que ce serait un monde où le mal serait dissimulé. J'ai pas mis où il n'y aurait pas de mal, mais où le mal serait dissimulé. Mais ça collait pas tout à fait, parce que un monde où le mal serait dissimulé, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose qu'un monde où le mal est absent. Oui. Or, elle veut un monde où le mal est absent, une sorte de monde idéal. Elle voudrait. Donc, je me suis dit, ça va pas, je triche un peu. Le monde est. Enfin, c'était pas complètement satisfaisant. Mais quand je suis venue ici, voilà, c'est ce que j'ai imprimé, la courte pinte. Ça va pas, en fait.
Après, on va voir comment ça s'intègre dans le reste du poème aussi, parce que ça peut compter, on peut se laisser entraîner. Parfois, quelque chose qui n'a pas l'air de marcher marche dans le rythme ou dans la vitesse du texte. Mais je voudrais interrompre une minute pour voir si parmi vous, il y a des gens qui ont décidé d'y réfléchir et de s'y coller et qui veulent dire comment ils s'y sont pris. Une vague de timidité a réduit. Allez-y. Et en plus, quand on fait ces listes, parfois il y a des mots qui nous viennent, mais qui ne sont pas cohérents avec l'époque à laquelle a été écrit le poème. Par exemple, couette, ça marchait pas. Bon, et en fait, ça marchait pour rien. Mais enfin, et voilà. Donc vous avez fait des listes, mais c'est le premier.
En général, je fais comme ça avec des synonymes, ou chercher les synonymes du terme en question, trouver des synonymes que je connais pas ou auxquels j'aurais pas pensé.
Je sais qu'il y a d'autres gens dans la salle qui l'ont fait. Hein. Je veux dénoncer personne, mais pardon. Oui.
Mais je complète après par le dictionnaire. Ensuite, je complète par le dictionnaire des vers.
Oui.
Et ensuite, ça devient tellement vertigineux que finalement, on finit par trouver une idée.
Oui, on crée une espèce de mouvement.
C'est un truc qui devient tellement poisonnant que tu ne peux plus le trouver finalement.
Oui.
Finalement quelque chose.
Oui, parce qu'on a fait venir beaucoup de choses. On a agité. Oui. Santiago, ouais.
Moi, je suis parti à l'envers, en fait.
Est-ce que vous entendez dans le fond quand les gens de devant parlent? Oui.
J'essaie de parler plus fort. Moi, je suis parti à l'envers. Je suis parti du principe que pour que ça fonctionne, il fallait que le poème fonctionne en tant que traduction autonome.
Oui.
C'est-à-dire que, voilà, que quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a un jeu de mots,
oui, oui. Ok. Ouais. Ok. Est-ce que tu as réussi à trouver quelque chose, oui?
Oui, j'ai réussi à trouver.
C'est bien, Santiago.
Quelque chose.
Quelque chose. Après, on confrontera bien sûr nos quelque chose, ou alors peut-être non, on dira rien et on vous laissera repartir comme ça. Jorm, tu avais une idée par rapport à.
Non, moi, j'ai fait comme un sale cancre. J'ai pas travaillé avant, mais là, je me suis confronté pendant que vous parliez à mes propres réflexes. Parce que
tu n'écoutais pas en fait pendant qu'on parlait.
Non, rien du tout.
D'accord.
Et
okay.
Donc non, mais j'ai un texte sous les yeux, ça démange, quoi. Voilà. Donc je me suis dit, quand même, je vais essayer.
J'espère que tu as trouvé. Parce
non, j'ai rien trouvé. Si ce n'est, on parle de la démarche pour l'instant,
oui.
La démarche. Donc
oui.
Effectivement, comme Santiago, commencer par avoir un espèce de canevas, quoi, de draft, et puis un réflexe qui est venu, mais que j'ai aussitôt repoussé, mais comme il n'a pas été évoqué, c'est que les lapsus auditifs, moi aussi j'en ai fait plein comme enfant, et il y en a que j'ai envie de recaser. Voilà.
Ouais. Alors là, par exemple, il y en avait un que tu avais.
Ah, moi, j'ai un souvenir d'enfance très précis sur un truc, c'est qu'à chaque fois qu'on rentrait de week-end, mes parents, à l'avant de la voiture, parlaient de prairie féerique. Et moi, la prairie féerique, je l'ai cherchée pendant tout le temps de mon enfance. Quoi. Je la cherchais. Et là, j'ai eu envie de la caser tout de suite.
Ah, la prairie féerique. Bah oui. Ah, mais oui, que c'est bien.
Voilà. Bah, alors, je ne sais pas du tout comment je vais à Hauchausse-Pied réussir à faire rentrer la prairie féerique là-dedans.
C'est toujours très lacanien, je ne sais pas, mais très freudien, la traduction. Ouais. Et vous avez un lapsus un lapsus d'enfance à recaser.
Mais j'aime beaucoup là, les prairies féeriques. Féerique, c'est très bien parce que ça peut très bien, on peut rebondir avec aussi dans ce que la femme dit à propos de ses enfants.
Mais après, il faudrait écrire tout le poème, mais pourquoi pas? On peut aussi, hein, non mais il y a une grande liberté, il faut que ce soit cohérent, il faut que ça fonctionne, mais on peut passer par des grands détours. Hein. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut parler de son expérience, si expérience il y a eu? Alexandre, vous voulez pas? Je dénonce les gens dans la salle maintenant, c'est comme ça. Non? Parce que je sais, en fait, Alexandre, c'est un autre de mes étudiants géniaux. Parce que je sais que vous l'avez fait, donc est-ce que vous pouvez juste raconter le moment où vous êtes face au jeu de mots? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas obligé. Hein.
Non, mais en fait, j'ai commencé pareil par traduire le poème et à essayer de faire une structure. Et après, enfin, en y réfléchissant maintenant, je pense que si je le refaisais aujourd'hui, j'essaierais de faire le jeu de mots plus tôt, en fait, de faire remonter. Parce que c'est vrai que c'est une grosse contrainte de garder aussi le jeu de mots en toute fin.
D'accord. Voilà.
Mais c'est vrai que j'ai aussi fait des listes.
Des listes, ouais.
Des listes et des listes.
Ok. Oui.
Ouais, c'est pas mal du tout.
C'est exactement ce qu'il dit. Alors que Cruncher aime, ça va pas du tout dans le sens du poème, il fait la guerre sur son œuvre.
Ah oui, mais c'est le principe du lapsus, c'est pas du tout ce qu'il dit. Pardon. Mais pardon, mais le en fait, comment vous. Pardon, c'est quoi votre prénom déjà?
Michel.
Michel, le problème, c'est que la prairie féerique, elle serait effectivement dans le texte narratif de Lucie, qui pourrait dire « j'aimerais, on va simplifier, j'aimerais que mes enfants grandissent dans une prairie féerique », ça correspondrait, mais à l'intérieur du poème, on serait obligé de caser « périphérique », à l'intérieur du poème. Non, mais c'est pour ça que c'est compliqué, parce que parfois, on se dit « ça y est, j'ai trouvé », et en fait, on se dit « ah ben non, ça marche dans un sens, mais dans l'autre, je ne vais pas réussir ». Alors, pour revenir sur l'expérience d'Alexandre, parce que j'en ai un bon souvenir, et après on donnera la parole à Cécile, je me souviens aussi qu'Alexandre avait transposé le poème, si je me souviens bien. Je ne l'ai pas apporté, hein, mais que y avait, c'était beaucoup plus naval, parce que je sais pas pourquoi, ça marchait mieux, parce qu'à cause de Hélice et d'Hélice, les royaumes d'Hélice, hein, je crois que c'était ça, quelque chose comme ça, les Hélices, et donc il y avait, je ne sais plus, il y avait des bateaux, etc. Mais je me disais que remplacer les collines par des vagues, etc. Et ça, c'est vrai que je disais, après tout, on n'est pas vraiment en train de traduire le poème de Stevenson, on traduit Emma Bise. Non, c'est une blague, salut. Travaille bien. On n'est pas vraiment en train de traduire le poème de Stevenson, on traduit le poème de Stevenson dans le texte de Gurganus. Donc, on a la possibilité de faire ce qu'on s'autoriserait peut-être pas. Si on était, je traduis Garden of Verses pour moi, pour un éditeur, etc. Cécile,
oui, moi j'ai découvert ça pour alimenter les différentes méthodologies. Je pense que quand on est devant un jeu de mots, on a tous ce moment où on navigue entre analytique et inspiration. Quoi. C'est-à-dire qu'on on va chercher des idées. Alors l'inspiration, c'est la nuit. Moi, c'est beaucoup sous la douche, personnellement. C'est beaucoup aussi en racontant à mon mari. Quel est le problème, sur quoi je bute. Et quand je suis dans l'analytique, en fait, je me rends compte que la plupart du temps, les jeux de mots, enfin, moi, c'est peut-être mathématique, mais c'est la rencontre de deux ensembles. C'est-à-dire que souvent, il faut trouver le mot, l'expression qui va renvoyer à la fois la literie, le jeu, la chambre, etc. Et puis la douleur, la peine, le mal. Voilà, donc c'est comme ça que... Moi, je suis paresseuse, je ne fais pas de liste. Ouais. J'ouvre mon dictionnaire de synonymes, souvent. Je lis, voilà, parce que je sais que ça va être très riche tout de suite. moi, j'aurais essayé de quand même de garder ça sur le dernier vers, parce que le fait que ça se termine comme ça, ça reste en suspens. Bon. Et je pense que dans un premier temps, j'aurais essayé de creuser la piste de mal, parce que mal, c'est une, c'est une syllabe justement qu'on peut retrouver plus facilement dans beaucoup de mots, sur laquelle on peut accrocher beaucoup de choses.
Oui. Voilà. Ben ça, c'est aussi un moment de choix méthodologique où vous dites que la contrainte de la rime va vous aider à trouver à ce moment-là. Et puis aussi, oui, c'est vrai qu'il y a certaines syllabes qui prêtent beaucoup moins à confusion, qui sont beaucoup moins présentes. Donc vous allez choisir une syllabe qui est très représentée en français. Ça peut marcher très très bien. Ok. D'autres essais, idées? Oui, non, non. Non, non, mais c'est bon. C'était... Enfin, de toute façon, si jamais vous avez une illumination pendant, continuez. Enfin, vous pouvez tout à fait intervenir. C'est pas parce que je dis maintenant on s'arrête et on vous donne la parole que le reste du temps vous n'avez pas le droit de parler. Hein. Et maintenant, Yorn, tu vas écouter parce que je vois qu'il continue. Non, non, je rigole. Vas-y, vas-y. Tu as été plébiscité par ton public. Hein? Non, non, mais il faut continuer.
Je n'ai rien à ajouter pour ma défense.
Il faut continuer, il faut continuer. Mais en tout cas, c'est vrai que la difficulté qu'on rencontre dans cette histoire, c'est qu'on a une partie du jeu de mots, mais on n'arrive pas à la faire correspondre, on n'arrive pas à la faire remonter dans le poème. Donc ça va être la grande difficulté aussi, que ce soit cohérent dans les deux passages, dans le passage narratif et dans le poème. Alors, moi, je me souviens pas comment j'ai fait vraiment. Je sais que j'avais fait des listes qui n'ont servi à rien. Et en général, ce que je fais quand je travaille sur un poème ou quand je travaille sur des livres pour enfants rimés, ce qui revient à peu près au même, je suis assez d'accord avec toi, Cécile, que finalement, l'analytique doit complètement disparaître. Et donc dans ces moments-là, moi je me mets dans une espèce de transe. C'est pour ça que le bain c'est pas mal, je suis assez d'accord pour la douche, le sommeil, des états paradoxaux, c'est-à-dire des états où on n'est pas complètement, où la veille, où la vigilance n'est pas à son comble. Parce que c'est aussi comme ça que quand on est petit, on fait des, et quand on est grand aussi, les lapsus auditifs, ils viennent souvent du fait qu'on entend, on est ailleurs. On est ailleurs et c'est comme ça qu'on entend de travers. Donc il faut essayer, moi j'ai l'impression, de recréer artificiellement cet état de semi-vigilance qui permet d'entendre mal ou d'entendre à côté. Donc je sais que moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je ne travaille pas, je ne m'y mets pas. La paresse, éloge de la paresse pour la traduction, c'est vraiment un métier de planqué. Où en fait il faut se prendre un bain, bien se détendre, après aller se coucher et là on rêvasse et on laisse. Alors, mais ça peut être long. Il faut pas être pressé. Non, mais c'est vrai.
Vrai.
Non, ben c'est pour ça que c'est pour ça, Cécile, que vous m'avez fait peur en disant je me suis mise hier. Pour moi, enfin, par exemple, 24 heures, c'est trop stressant pour débobiner un jeu de mots.
Je savais que c'est.
Là, on joue. Donc, voilà, en même temps, il n'y avait pas d'enjeu.
Non, mais c'est marrant parce qu'on
joue, il n'y avait pas d'enjeu.
On trouve souvent le jeu de mots au livre d'après.
Oui, ah ben.
Mais oui, il y a ça aussi.
Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait ? Allô ? Alors, pour la parution en poche.
Non, et puis là, je savais, c'est quand même une différence. Je savais que c'était un exercice. D'ailleurs, j'ai re-regardé le mail, j'ai descendu, tac, 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 Agnès Dessart, le premier mot, et j'ai bien vu le mot joute. J'ai dit, bon, c'est bien. Elle nous demande un exercice, elle nous demande une joute. J'ai pas traduit, enfin, je me suis pas prise, j'ai pas traduit ni conçu ça dans le temps. Comme si j'avais vraiment, pour de vrai, traduit le roman et que je devrais remettre à un éditeur. Hein,
Non, non, ça, bien sûr, ça change tout. Mais ça change quand même un petit peu. J'ai l'impression que c'est le genre de. Je sais que sur certains. Moi, j'ai l'impression que sur certains passages, l'acharnement paye en traduction. Et pour certaines choses, c'est le contraire. Si on s'acharne, on ne trouve pas. Il faut arrêter de chercher pour trouver. Ouais. Et il faut laisser le. Il faut laisser les choses se faire. Et moi, j'ai l'impression vraiment que recréer cette espèce d'état un peu bizarre, ça peut aider. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on commence à dévoiler nos... Je pense qu'on peut. Hein. nos tentatives, nos traductions. Alors en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, j'avais traduit, ça fait des années que je l'ai fait pour pouvoir le proposer quand même à mes étudiants. Je m'étais dit, il faut déjà que tu puisses le faire, parce qu'il faut que tu l'aies fait, pour leur dire, mais si, c'est possible, etc. Donc ça fait plusieurs années que je l'ai traduit. Là, je l'ai un peu remanié, mais je n'avais jamais traduit le petit passage au-dessus et le petit passage au-dessous. Et je dois avouer que dans le petit passage au-dessous, je suis tombée sur un os que je ronge encore et je ne sais pas du tout quoi faire. Donc je soumettrai ça à votre sagacité aussi, si vous le voulez bien. Mais donc dans un premier temps, je pense qu'on peut... est-ce que vous souhaitez lire? Est-ce qu'on lit strophe par strophe? Est-ce qu'on lit le poème en entier? Strophe par strophe? Ok.
Ah, le poème, on commence par le poème, pas par le texte.
On commence par le poème.
D'accord.
Ouais, si vous voulez
d'accord,
bien.
D'accord.
Alors, comment on fait? Chacune, bah, vous commencez, oui, première d'accord. Strophe. Moi, je fais la première strophe et vous faites votre première strophe.
Vous arrivez à lire, à suivre, là, oui, d'accord.
Okay. Pas mal de personnes ont le texte.
Alors. Attends. When I was sick and lay a bed, I had two pillows at my head, and all my toys beside me lay to keep me happy all the day.
Et là, faites-nous votre version française, si vous voulez bien.
J'étais assez audacieuse, je me suis étonnée, parce que vous allez voir pourquoi. Quand j'étais malade et allongée au lit, j'avais deux oreillers sous la tête et mes jouets étaient mes amis pour que la journée soit une fête. Non, je suis allée assez loin parce que la fête, c'est assez loin, mais ça rimait avec tête.
Moi aussi, j'ai fête. C'est bizarre, hein?
C'est
normal. C'est à cause de tête. Hein. C'est comme
c'est
le chien
chrétien.
C'est à cause
de chrétien. Tête, ouais. Puis j'ai mis mes jouets, étaient mes amis, mais ça j'ai trouvé dans un second temps. J'aimais bien, je trouve ça très enfantin, enfin,
oui.
Très proche d'un petit garçon, quoi. Il a des amis et
il
des jouets.
Et il est seul et malade, donc il a quand même besoin d'avoir des amis.
Voilà.
Ok, j'y vais. Petit enfant malade au lit, j'avais deux coussins sous ma tête et tous mes jouets en grand fouillis donnaient toujours des airs de fête.
Ah, c'est drôle.
Tête faite, normal. Ouais. Oui, Claire, une objection.
Ce que je trouve bien, non, au contraire. Bravo. Ce que je trouve bien, c'est que tu aies supprimé « lay », parce que c'est comme en allemand « liegen ». On n'a pas besoin de préciser la position, ça tombe sous le sens qu'il est allongé, donc on ne va pas le traduire.
Alors, c'est le genre de truc d'habitude que je ne sais pas du tout faire, pourtant. Je sais que c'est le genre de truc que Emmanuel fait très bien, et que Emmanuel avec qui je travaille à Paris 7, et en général, les étudiants qui l'ont en cours me disent « Emmanuel nous a bien expliqué qu'il fallait enlever tous les verbes qui je ne sais pas quoi, et tous les adverbes qui je ne sais pas qui ». Je fais « Ah bon ? Ah ben c'est génial, hein ! Mais moi, personne ne m'a jamais dit ». Et donc, merci à mes étudiants, merci à Emmanuel. Et c'est grâce,
bon
donc, je rends à Emmanuel ce qui est à César et vice-versa. Mathilde.
Alors, moi, j'ai escamoté la tête. Enfin, elle n'est pas en rime, en tout cas.
Elle a escamoté la tête.
Elle a guillotiné le poème.
La tête est toujours là, mais la tête ne rime pas, en fait.
Allez-y.
Lorsque j'étais malade et alitée, la tête calée sur deux oreillers, j'éparpillais mes jouets alentour pour me divertir tout le long du jour.
Ok, très bien. On continue. Deuxième strophe.
Je dois dire que c'est très amusant. Non, mais
j'ai d'entendre les différences.
Oui,
là.
Oui, c'est
oui.
Fou, quoi. And sometimes for an hour or so, I watched my leading soldiers go with different uniforms and drills among the bedclothes through the hills. Il arrivait qu'une heure ou deux, je regarde mes soldats de plomb en ligne, suivant différents uniformes et pas de deux, parmi les draps à travers les collines.
Okay. Parfois, durant une heure ou deux, mes soldats de plomb manœuvraient en uniforme dans les creux que les draps froissés dévalaient. C'était un peu une licence poétique, un peu gna-gna, mais je me suis dit, oh allez, c'est un poème. Mais je trouve ça un peu précieux. Je me suis demandé si je le changeais pour aujourd'hui, et je me suis dit, non, je vais le laisser me moquer.
Parfois, pendant une heure ou deux, je regardais mes soldats valeureux, dans leurs uniformes et fanfreluches, prendre d'assaut les collines de peluches.
C'est mignon.
C'est osé, mais c'est très joli.
Un chef d'orchestre, et rien de tel. Mais d'ailleurs, on devrait tous recevoir une formation. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas. Bon, je vais mettre ça au programme à Paris 7.
La suite.
Vous voyez que pour l'instant, aucune de nous n'a fait de jeu de mots. C'est vraiment, il se passe pas grand chose.
Si, c'est la bataille navale.
Alors.
And sometimes sent my ships in fleets all up and down among the sheets, or brought my trees and houses out and planted cities all about. Bon, là, je crois que je suis un peu trop moderne là. Il arrivait que je lance mon escadron de navires. Il arrivait que je lance mon escadron de navires sur les flots des couvertures, m'invente des arbres, rase les maisons et plante des villes alentour. En fait, l'entour et couverture, bon, c'est pas tout à fait...
Il faut dire couverture.
Oui.
Non, mais c'est vrai, au moment de la lecture d'un poème, on peut le faire, couverture. Alors, peut-être qu'on pourrait... Et Santiago, tu as ton texte, toi, ou pas? Tu l'as pas apporté?
Je l'ai pas amené. Alors, je suis en train d'essayer de mémoire de comme ça, mais
bon,
ça...
continue d'essayer. Puis peut-être tu te souviendras du jeu de mots.
Le jeu de mots, je m'en souviens.
Voilà.
Mais
alors, on le fera, on le garde pour la fin. C'est Alexandre, c'est pareil. Vous avez pas apporté, non? D'accord. Alors, donc la troisième strophe. D'autres fois, c'était mes navires voguant au gré des couvertures ou des arbres et des maisonnettes figurant cités et verdures.
Et parfois, j'envoyais ma flotte miniature affronter les flots rageurs des couvertures, où je sortais mes arbres et mes maisons pour planter alors des villes à foison.
Bien. Maison foison. Toi, tu avais maison foison. Voilà, c'est le principe des rimes. Et maintenant, c'est dingue, vous partez au moment du jeu de mots, mais cette femme est folle. Ne l'approchez pas. Bon voyage. Dernière strophe, qu'est-ce qui va se passer? Le suspense est à son comble.
On l'a un petit peu quand même cassé, le suspense.
Non, moi je trouve pas.
I was the giant great and still that sits upon the pillow hill and sees before him dale and plain, the pleasant land of counterpane.
C'est joli avec la petite musique.
C'est un peu tiré par les cheveux quand même ce que j'ai fait. J'étais le géant immobile à l'ombre crainte. C'est lourd. Hein. Assis sur la colline oreillée et admirant à ses pieds plaines et vallées le doux pays de la courte pointe.
Alors, vous pouvez le refaire?
J'étais le géant immobile, non, les géantes immobiles, pardon, à l'ombre crainte, en fait, qui est crainte.
Oui, ça, c'est bon.
Assis sur la colline oreillée et admirant à ses pieds plaines et vallées le doux pays de la courte pointe.
Ok, et ça va se jouer sur courte pointe donc.
Bah, l'ombre crainte.
Ah.
À l'ombre crainte, donc j'ai complètement inventé. En fait,
oui,
j'ai rajouté une ombre,
oui,
pour que crainte rime avec courte pointe.
Ah oui, ça oui. Mais est-ce que je me... Mais le jeu
non,
de
pour
mots,
l'instant,
il va être pris. On va le voir dans la suite.
Il vient après. Il vient après le jeu de mots.
Il vient après. Bah, d'ailleurs, il va venir après pour tout le monde, mais on va voir sur quoi il va jouer. Donc, j'étais le géant immobile dont l'édredon d'heure en heure dessine face à lui comme une île le radieux pays d'un doux leurre. Et là, ça vend un peu la mèche.
J'étais le géant immense immobile assis sur sa colline de textile contemplant les plaines et vallées saintes du doux pays de la courte pointe.
Ok. Donc, on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on intègre ça va se jouer sur courte pointe. Donc là, il faut qu'on lise la ligne suivante, c'est ça?
Oui, c'est
le paragraphe suivant.
Oui. Mais tu as déjà annoncé l'acteur?
Ben parce qu'on l'entend très bien. Il est non, oui.
Tu as déjà planté ton...
Le jeu de mots, Non, enfin non, c'est une façon. Il se trouve que j'ai fait une homonymie complète, mais c'est ça qui est venu. Mais c'est pas c'est un hasard. Alors c'est vrai que quand on entend un doux plus loin l'heure, le mensonge, on entend aussi un douleur qui n'existe pas. Ouais.
Oui, en évacuant le sens de counterpane. On n'a plus de couvre-lit,
de couvre-lit. Oui. Donc là, c'est comme ça que, voilà, c'est là que je prends ma liberté. Je ne suis plus, je quitte la couette, je quitte la couverture, et je me dis que je vais utiliser, mais je ne me souviens plus comment j'ai fait, je pense que j'étais concentrée sur la situation, la scène, la dramatique de la situation. C'est-à-dire qu'il invente... il invente un pays, il y a des collines qui n'existent pas, il y a des plaines qui n'en sont pas, et donc j'ai pensé, et je crois que c'est comme ça que le mot est venu, le mot leurre. Mais je crois que j'avais déjà, moi j'étais partie un peu à l'envers, mais un peu sur la même façon que Cécile a évoqué tout à l'heure, quand tu disais je serais partie sur Mal, je crois que je me suis dit plutôt que de partir sur courte pointe, couverture, etc., je vais partir sur, je prends douleur, je me dis que ça va être sur douleur, et en fait en disant douleur, 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 voilà, et c'est là que c'est venu, c'est comme ça que c'est venu, c'est en le prenant à l'envers. Donc c'est pour ça qu'on l'entend très, on l'entend très fort, parce que je suis partie, je suis remontée en fait de la narration dans le poème. Mais c'est un, on ne sait pas pourquoi ça se fait dans ce sens-là ou dans l'autre. Hein, c'est oui. Donc là, on lit la ligne suivante pour voir ce qui se passe, comment on l'intègre dans la narration.
On saute un petit peu parce que ce n'est pas...
Enfin, alors, en fait, ça fait « Whilst we put kids to bed, I remember when I first memorized this, I was five, couldn't read yet, yet I believed that counterpane was spelled like pain, with the I left in. I heard the pleasant land of counterpane, of not ever hurting. » Donc là, je pense qu'on a tout pour le jeu de mots.
Ouais, ouais. Bon, ben moi, en fait, je vous ai dit tout à l'heure ce que j'avais fait. J'ai mis, donc, la première fois que j'avais 5 ans, je ne savais pas lire. Mais je ne suis pas complètement satisfaite. Je confondais courte pointe, et je n'ai pas mis j'entendais, hein, j'ai mis oui, je confondais courte pointe et courte pointe avec un E à la place du O. Je prononçais le doux pays de la courte pointe où le mal est dissimulé. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que le mal est dissimulé, ce n'est pas l'absence du mal.
Ouais.
C'est un peu différent, donc c'est pour ça que je ne suis pas très contente.
Et, alors, et là, maintenant que vous avez l'idée, l'esprit d'escalier, vous vous dites que vous utiliseriez plus préférablement pleine,
oui, plaide et trouver, laine. Voilà, que j'essaierai ça tournerait. De trouver, j'aime bien ça.
Que... Et alors, si on allait vers plaide, pleine et peine, voilà, c'est ça. Il faudrait trouver un moyen pour glisser de pleine à peine.
On pourrait peindre, par exemple, le doux pays de la plaine, mais dans ce cas-là, il faudrait enlever plaine juste au-dessus pour pas que ce soit répété, quoique la répétition puisse évidemment être souhaitable dans un poème. Et le doux pays de la plaine, c'est joli parce qu'il y a le P, le doux pays de la plaine, et dire, voilà, j'avais entendu le doux pays de la peine, parce que les enfants souvent mangent des syllabes.
Ouais. Et à ce moment-là, on pourrait retomber en se disant le doux pays de la peine, ce qui signifiait que la peine pouvait être douce. Quelque chose
oui,
comme
oui,
ça.
Oui, oui, il faudrait
réussir à l'intégrer. Il faut voir aussi comment après on.
Ouais, il faut réaménager après.
Oui, oui. Alors, où est-ce que c'est? Ah oui. Tandis que nous mettons les enfants au lit, je me souviens, la première fois que j'ai appris ça par cœur, j'avais 5 ans, je ne savais pas encore lire. Je croyais qu'un douleur s'écrivait indouleur comme indolore. J'entendais le radieux pays d'indouleur, là où on n'a jamais mal. Ah oui, je sais qu'une chose qui m'a aidée à trouver l'heure, c'était que je me disais qu'il fallait que ce soit un mot qu'un enfant de 5 ans ne comprenne pas. Pour faciliter le lapsus auditif, souvent, ils ont lieu et c'est un moment où il y a un mot qui échappe. Ça veut dire que le mot d'avant, il est compris, le mot d'après, etc. Mais ce qui fait le... Et donc, c'est pour ça que je suis arrivée sur un mot légèrement compliqué qui appartiendrait peut-être pas au vocabulaire, sûrement pas même d'un enfant de 5 ans. Voilà.
Tandis que nous couchons les enfants, cela me revient. Lorsque j'ai appris ce poème à 5 ans, je ne savais pas encore lire. J'entendais courte pointe dotée d'un L. J'y voyais le doux pays de la courte plainte où la peine ne durait pas. Donc, chez moi non plus, finalement, le mal n'est pas absent. Il est quand même existant, mais il a une durée de vie
la
faible.
La courte plainte pour la courte pointe.
C'est pas mal, la courte plainte.
Ouais, et joli, en fait, après coup, parce que la dernière rime, Vallée Sainte et courte pointe, c'est la dernière rime que j'ai trouvée. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire rimer et courte pointe Et puis,
c'est venu d'un seul coup. Plainte rime mieux avec sainte que pointe. Donc, ça justifie d'une certaine manière son lapsus auditif, puisqu'elle se dit... puisqu'elle entend quelque chose qui est plus approprié, peut-être.
Oui, et puis tout simplement que moi, à 5 ans, courte pointe, ça ne me parlait pas. Donc... et du coup, après, je me suis dit, mais il y aurait quelque chose à faire avec Vallée Sainte, 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 mais bon, finalement,
alors,
j'ai
Sainte,
pas...
Sainte, Sainte, allez-y, enfin, développer.
Sainte, oui, la Vallée Sainte, donc il y a la Vallée...
Sainte, c'est...
Au sens géographique, oui. Et puis la Vallée Sainte...
Voilà,
oui, mais
ça, du coup,
ça,
je suis pas...
Sainte,
ouais.
Aussi,
voilà, mais je suis pas partie dans cette direction parce que je l'ai vu vraiment au dernier moment et je me suis dit, bon,
d'accord,
c'est déjà...
C'est fou parce qu'on a déjà 3 personnes, 5 possibilités, donc c'est drôle de voir à quel point c'est fécond parce qu'on... On est d'abord arrêté et ensuite, en discutant, on trouve encore des choses. Santiago, tu te souviens de ce que tu avais fait? Est-ce que tu peux nous le dire? Tu as le micro. Pardon. Porte-le à ta bouche.
Merci.
Alors, moi, la dernière strophe, j'avais dit « J'étais l'immense géant calme, installé sur son pelochon, qui semblait surveiller les veaux du beau pays de l'Édredon. » Et moi, en fait...
Qui semblait surveiller les...
Les veaux.
Les veaux, oui.
Du beau pays de l'Édredon.
Oui.
Et moi, mon jeu de mots, il porte... En fait, j'ai décalé le jeu de mots sur le vers d'avant.
Oui.
Et la gamine, elle comprend « qui, virgule, sans blessure, virgule, veillait les veaux. »
Ah, donc, c'est chouette.
Qui semblait surveiller les veaux, elle comprend qui semblait, qui sans blessure veillait les veaux. Quoi. Et donc, elle imagine un pays sans blessure, etc.
Ah oui, c'est joli, ça marche bien, ça aussi. Oui.
Alors, une idée qui me vient, je n'ai pas tout travaillé dessus avant, mais je pense à l'onomatopée ouille par rapport à avoir mal pour un enfant, les enfants de France ouille. Alors, ce serait à développer.
Pour les rimes, ça, c'est vrai que c'est riche. Oui.
Une couette douillette. Et
oui.
On pourrait peut-être voir.
Extraire ouille.
C'est un peu casse-gueule.
Non, mais pourquoi pas.
De toute façon, un peu la contre-pétrie.
Oui, c'est ça. Mais pourquoi pas. Et de toute façon, à mon avis, ce qui se passe, c'est que maintenant qu'on a un peu trafiqué tout ça, normalement, vous n'allez pas dormir cette nuit si tout se passe bien. Et vous allez tous avoir des idées qui vont fuser dans tous les sens de comment. Un peu au Pierre Dac, ouais, mais bon, après tout, on est dans les jeux de mots. Oui, c'est joli, Polo, ouais.
Et Polochon, c'est un mot récent, je n'arrive pas à le dater, c'est un mot très 20e siècle. C'est très vieux.
Ouais.
Je suis resté toujours sur mon idée qu'il fallait pouvoir lire ça. Comme c'était une traduction de Stevenson, et donc que ça soit lisse à la lecture, quoi, que quelqu'un qui ne soit pas au courant du jeu de mots puisse lire le poème et retrouve une traduction du poème. Quoi.
Mais je pense que cette contrainte-là, elle a été suivie par toutes, je crois, il me semble, que l'idée, c'était aussi que le poème, il ait de la gueule, qu'il soit dans son intégrité de poème, à la fois poème pour enfants, donc avec les thématiques et pas trop de mots compliqués, en même temps jolis, etc. C'était important de garder ça. Et c'est vrai que donc il y avait là aussi cette contrainte des mots, ne pas utiliser de mots de récents. Par exemple, pardon à Mathilde, textile. Oui, je suis comme ça. Je ne sais pas si quand vous lisez textile dans une traduction de Stevenson, vous vous dites.
C'est un peu industriel.
Oui, peut-être. On sort un peu du texte, on se dit qu'est-ce qui se prépare là ? Pourquoi on m'a mis textile ? Il y a la méfiance du lecteur est éveillée. Donc je ne sais pas. Oui, Mona ?
Ou les plages naturistes. Pardon. Et les autres. Ouais. Les plages naturistes et les autres.
Comment ça ?
Ben, les plages textiles, c'est celles où on est
habillé. Ah ! J'ignorais. Donc ? Oui, c'est ce que je voulais proposer. Alors, je ne sais pas où on en est. Quelle heure il est ? J'ai pas. Ah oui, tu devais faire le. Alors, ce que je vous propose, on va lire chaque poème en entier, et après, je voudrais juste que vous m'aidiez à traduire un truc que moi j'avais pas du tout compris, et je vais vous dire pourquoi je trouve ça bien aussi d'avoir un truc qu'on comprend pas du tout.
Un truc atroce.
Mais j'aime bien le truc. Tu produis l'effort énorme sur le poème. T'as fait le jeu de mots. Yes, t'es là, t'es fier. Je suis un grand traducteur. Et puis tu continues. Et là,
bam, los.
Et rien, rien. Et ça, c'est génial. Donc, je vous propose qu'on lise d'abord les trois poèmes. Comme ça, on reste dans la beauté. Et puis après, on détruit tout. Ok.
On casse les jouets, comme l'enfant.
On casse. Voilà, exactement.
Quand j'étais malade et allongée au lit, j'avais deux oreillers sous la tête et mes jouets étaient mes amis pour que la journée soit une fête. Il arrivait qu'une heure ou deux, je regarde mes soldats de plomb en ligne, suivant différents uniformes et pas de deux, parmi les draps, à travers les collines. Il arrivait que je lance mon escadron de navires sur les flots des couvertures, m'invente des arbres, rase des maisons et plante des villes alentour. J'étais le géant immobile à l'ombre crainte, assis sur la colline oreillée, et admirant à ses pieds plaines et vallées le doux pays de la courte pointe.
Petit enfant malade au lit, j'avais deux coussins sous ma tête et tous mes jouets en grand fouillis donnaient toujours des airs de fête. Parfois, durant une heure ou deux, mes soldats de plomb manœuvraient en uniforme dans les creux que les draps froissés dévalaient. D'autres fois, c'étaient mes navires voguant au gré des couvertures ou des arbres et des maisonnettes figurant cité et verdure. J'étais le géant immobile dont l'édredon d'heure en heure dessine face à lui comme une île, le radieux pays d'un doux leurre.
Lorsque j'étais malade et alitée, la tête calée sur deux oreillers, j'éparpillais mes jouets alentour pour me divertir tout le long du jour. Et parfois, pendant une heure ou deux, je regardais mes soldats valeureux, dans leurs uniformes et fanfreluches, prendre d'assaut les collines de peluches. Et parfois, j'envoyais ma flotte miniature affronter les flots rageurs des couvertures, où je sortais mes arbres et mes maisons pour planter alors des filles de sa foison. J'étais le géant immense, immobile, assis sur sa colline de textile, contemplant les plaines et vallées saintes du doux pays de la courte pointe.
Vraiment, je crois qu'il y avait un truc à faire avec ça. Je suis d'accord que
faudrait le tenter. Et en revanche, après, moi, j'ai reglissé ce doux pays de la contre-peine dans le paragraphe, le dernier paragraphe du texte.
Ah, d'accord.
Voilà, quand il dit, quand elle dit « and I hurt », où est-ce que c'était ?
Alors, je l'ai en anglais quelque part.
Ah oui, « I went on telling our children about this pleasant land of and I hurt ».
Ah oui.
Et là, j'ai gardé. Je continuais de parler à nos enfants de ce doux pays de la contre-peine. Parce que j'aime bien quand je peux reglisser la VO sous des formes déguisées.
C'est pas un terme juridique. La contre-peine. Contre-peine de mort. Quelque chose comme ça. Il y a contre-peine.
Je sais pas, mais ça peut. Ça peut marcher.
Oui, la double peine.
Donc, je vais vous dire moi où est mon os. Moi qui ne suis que chair pourtant. Alors. Donc, on a vu le poème, ensuite il y a trois lignes qu'on a déjà lues, et ensuite, only as a grown-up, only when reading it aloud to little ones while trying and brighten captain's rougher bedtime tales, only then did I see the world in print, the word in print. I went, oh dear, turns out a counterpane is just a fancy quilt. Won't such a noun as my pet made up counterpane? And don't I know... There's no such place on earth as one where nothing ever hurts. Alors, comment? Oui, vous voyez l'os ou pas? Il y en a. Et pour moi, c'est pour donc j'avançais tranquillement dans ma traduction. J'étais, c'est seulement quand je suis devenue adulte, quand je l'ai lu à mes petits, histoire d'alléger les contes du soir pleins d'horreur que leur servait mon capitaine, que j'ai vu le mot écrit. J'ai pensé, oh misère, un douleur, c'est rien qu'une façon un peu chichi pour dire mensonge. Et après, il y avait ce fameux « Won't such a noun as my pet, virgule, made up, counterpane ».
Je me suis demandé s'il ne manquait pas un verbe. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça?
On a un anglophone dans la salle, là. C'est mieux qu'un médecin. Franchement, là, il nous faut un anglophone. C'est plus important, c'est plus vital pour nous. Pardon ? Oui, j'y ai pensé, mais ça ne m'aide pas. J'ai tourné dans tous les sens, j'y arrive pas. Comment vous avez fait ?
Alors, moi, j'ai fait...
Mathilde, elle a trouvé, c'est forcé.
Non, non. Non, enfin, je vais vous soumettre ma traduction. Ce n'est qu'une fois adulte, lisant le poème au petit dans une tentative d'égayer les contes barbares du capitaine, que je vis le mot imprimé. Bigre, il n'était après tout question que d'un couvre-lit sophistiqué, rien à voir avec ma chère courte plainte imaginaire. Ne suis-je pourtant pas bien placée pour savoir qu'il n'est d'endroit sur Terre où la souffrance fut éphémère ?
C'est très joli, mais alors j'ai même pas vu passer le want such a
noun. Non, j'ai fait rien à voir avec ma chère courte plainte imaginaire.
Mais est-ce que vous le comprenez quand vous lisez « Won't such a noun as my pet, virgule, made up, counterpane »
Moi, je comprends.
Toi, tu comprends quoi?
Moi, ce que je comprends, c'est « my pet, a name like counterpane, won't turn out ».
Recommence?
C'est-à-dire, le sujet, c'est...
Vas-y, voilà, faisons du latin. J'ai besoin d'un peu de latin, là, vas-y.
Le sujet, c'est « made up, counterpane ». Ensuite, le verbe, c'est « won't turn out ». D'après moi, le won't, c'est won't turn out. Et elle reprend la structure grammaticale de la phrase précédente et elle la balance avec une ellipse en mettant juste.
Ok, c'est turn out qui est ellipsé à ce moment-là. D'accord. Et pet, c'est quoi alors? C'est la favori. C'est le. Oui, oui. Non, mais c'est adjectival à ce moment-là. Mona, toi, tu vois ça aussi? Oui, d'accord. Alors moi, c'est, c'est ce que j'ai écrit en français, mais je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas en anglais. Et alors, je me suis dit, et j'aimais bien cette idée que je pensais à quand on fait des... Il y a une tradition juive que je trouve très jolie. Quand on fait des travaux dans une maison, l'électricité, c'est très important. La plomberie, c'est très important. La peinture, c'est très important. Mais le plus important, c'est de laisser un bout où ce n'est pas fini. Et c'est vraiment une tradition. Vous voyez parfois des très beaux appartements, même, et il y a toujours un bout, c'est pas fini. Et je me suis dit, bah tiens, là, ce sera mon bout, c'est pas fini, parce que je me suis vraiment fait chier sur ce poème. Mais là, voilà, j'avais un... Oui.
Je sais pas si quelqu'un l'a dit.
Oui.
Ni si j'ai raison, mais pelt, c'est un adjectif.
Oui, oui, ça a été dit. Oui, oui, tout à fait. En fait...
C'est pas comme kid, quand on dit un kid system, ma petite
sœur. Oui.
Oui, mon mot fait. Oui.
Je
ne
sais pas trop comment
Ou chérie, ou fétiche, ou j'en sais rien. Pet, il est rapporté à counterpane.
Comme
made up. Oui, comme made up. Donc, ça, c'est deux adjectifs qui précèdent le nom. Mais en fait, je n'arrivais pas à voir quel était le verbe qui manquait après.
Oui, la difficulté, c'est le want such, c'est pas tellement le pet.
Oui. Oui. Ouais. Pardon, Charles, ouais. Et alors, elle reprendrait quelle phrase ?
Qu'elle termine pas cette phrase-là, ouais. Et puis qu'elle repart sur.
Oui, mais moi je
me mêle pas. En tout cas, ce serait très possible par rapport à l'oralité. Le texte est très très oral, et il se peut que ce soit ça, c'est une possibilité qui ne va pas dans ce qui ne milite pas pour cette possibilité. Oui, il y avait une. Vous vouliez intervenir ? Non ? Ouais. Ouais. Alors, reste après, une fois la difficulté.
Ça traduirait un truc contrairement à mon mot favori.
C'est un peu anthropomorphique aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'elle donne une sorte de pouvoir au nom. Elle lui attribue un peu de pouvoir. Moi, je ne dis pas que c'est génial, mais j'avais mis « Ce nom ne voulait donc plus être mon chouchou, la courtepointe de mon invention ». Comme si le nom devenait son ami. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quand je dis que c'est un peu anthropomorphique. Mais effectivement, il y a une ellipse. Enfin, il y a un verbe qui manque.
Oui.
Ça ne pourrait pas être won't be.
C'est ce que propose. De, oui, c'est oui. Ce que mais comme vous ne parliez pas très fort, on ne l'a pas entendu. Ouais. Mais c'était ça. Oui, oui. Ça pourrait.
Après, alors, moi, il y a un autre détail. Ouais. Je rajoute encore un étage à la fusée de ce jeu de mots, mais dans un peu plus haut dans le paragraphe, quand elle dit When I first memorized this, I was five, couldn't read yet. I believe that counterpane was spelled like pain with the I left in. Et moi, j'étais très très triste de rien pouvoir faire de ce I.
Oui.
Et du coup, enfin, c'est vrai que moi, en reglissant le voilà. Et donc je me disais, est-ce qu'on peut pas trouver quelque chose ? Alors moi, misérablement, avec ma courte plainte dotée d'un L, alors je me disais peut-être une petite ambiguïté sur l'aile, les ailes, mais
ouais.
Non, malheureusement, j'ai pas trouvé, mais je pense qu'il y aurait aussi là encore quelque chose à creuser.
Ouais, pas mal. Voilà.
Non, mais c'est un écrivain assez incroyable, ouais. Je dois dire. Le livre est sidérant, parce que c'est comme ça pendant 700 pages à peu près. Hein.
Ouais. Ouais, c'est comme ça pendant 700 pages. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce texte, mais que c'est inépuisable, comme tous les grands textes.
Ouais.
Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et pour votre courage.
Mais vous êtes tous plus ou moins traducteurs, j'ai l'impression. Non ?
Plus ou moins.